Merci infiniment, Félix. C'est comme si tu avais parlé avec ma mère avant de, de me présenter. Et merci à Bénédicte et à Félix d'avoir organisé ceci et de m'avoir fait l'honneur de me donner la parole pour apporter ma contribution à cette réflexion sur l'avenir des musées. Alors, pour contribuer précisément à ces réflexions sur l'avenir des musées, je suis parti du principe que pour bien poser la question « quel musée ?», « quelle utopie muséale ?», il fallait se demander d'abord qui en seront les habitants. Que l'habitat soit fait des habitants, c'est une tradition islamique qui le rappelle en posant que la maison, c'est d'abord le voisin. La réponse, me semble-t-il, à cette question est qu'il faut concevoir le musée à venir comme la maison des mutants. Qu'est-ce que j'entends donc par des objets mutants ? Je dois dire que les idées de ce titre et de ce concept me sont venues d'un rapprochement que j'ai effectué entre ce que l'on m'a dit il y a quelques semaines d'une manifestation possible de la force que recèlent certains objets dits d'art africain et un livre pour enfants publié en 1993 par le cinéaste et écrivain croate Milan Trench. Je crois qu'il faut prononcer Trench. Ce que j'ai entendu d'abord, c'est que pour certaines communautés encore aujourd'hui, il est parfaitement pensable qu'une œuvre devenue objet de musée et installée à un emplacement donné se retrouve le matin venu à une autre place. Cet objet, semble-t-il, se sera déplacé durant la nuit. Et Bénédicte, qui a été converti à cette manière de penser, vient de nous parler des objets agissants. Quant à moi, le scepticisme est mon métier et je fais religion du rationalisme, mais je veux bien penser qu'il y ait ainsi des cosmologies où un tel phénomène soit tout naturellement concevable. Et cela m'a fait penser au titre de Milan Trench, publié en anglais sous le titre « The Night at the Museum ». Ce titre est surtout célèbre aujourd'hui par la trilogie de films fantastiques et comiques auxquels le livre a donné lieu entre 2006 et 2014, des films portés par le talent d'acteurs comme Ben Stiller et Robin Williams. Alors, l'histoire telle qu'elle est reprise du texte de Milan Trench est celle du Musée américain d'histoire naturelle, qui est un musée tout à fait classique, normal, jusqu'au moment où s'y introduit le fantastique sous la forme de la tablette d'or d'un pharaon égyptien. Alors le musée se met tout simplement à vivre. Tous les objets qu'il abrite et offre au regard des visiteurs aux heures d'ouverture s'animent la nuit et entrent dans une sarabande invraisemblable. D'un mot, l'énergie qui est la tablette pharaonique s'avère force vitale qui manifeste que rien n'est inerte, qu'il n'y a jamais un degré zéro de vie dans les personnages de cire ou des personnages figurant en peinture, ainsi bien sûr que dans les restes animaux que l'on trouve dans un muséum d'histoire naturelle. On notera, dans ce qui est plus qu'une simple farce, les éléments mythiques que sont, premièrement, la revivification qui s'accomplit par la civilisation mère de bien des spiritualités qu'est l'Égypte pharaonique. Deuxièmement, le fait que, comme dans les récits de vampires, les objets du musée se révèlent des êtres de la nuit pour qui la lumière du jour est létale puisqu'elle les transforme en poussière. La poussière ou la cendre signifiant la dissolution ultime, la disparition irrémédiable du principe vital qui tient ensemble et réunit les éléments en un organisme. Troisièmement, on notera enfin la signification de cette opposition entre le jour où les seuls vivants sont les visiteurs humains du musée et la nuit où la vie est celle des habitants du musée. Ce que cette opposition nous dit, c'est que lorsque ces objets sont offerts à la contemplation qui suppose la lumière, ils sont pétrifiés, ils sont tenus immobiles sous le regard. Ils sont dans la subjugation en donnant à ce mot toute sa force étymologique. Le regard, on le sait, est le symbole même d'une approche de la réalité qui fige et sépare pour connaître. Vous ne pouvez pas connaître le mouvement ou penser le temps si vous ne commencez pas par les immobiliser, les pétrifier, transformant ainsi le mouvement en une juxtaposition d'immobilité et le temps en une série de moments. C'est notre intelligence analytique, comme l'appelle Bergson, ou encore ce que Senghor appelle, lui, d'une expression heureuse parce que poétique, notre raison œil, qui procède ainsi. Le regard de la gorgone, le regard qui pétrifie, c'est le sens même de l'approche analytique de la réalité dont notre langage est l'enfant. Alors, changer d'approche, changer de paradigme, c'est changer de sens, à la fois sens comme signification et sens comme l'un de mes cinq sens. Au lieu du regard, sera privilégié alors le toucher. Non pas l'effleurement ou la caresse qui est encore séparation, mais le toucher poussé à sa réalisation ultime, qui est l'étreinte où les corps deviennent un. Cette autre approche, dit Senghor, est celle de la raison étreinte. Pour reparler ici des mythes communs à l'humanité, on connaît la force symbolique du baiser du vampire, justement, qui est l'étreinte la plus accomplie qui soit. Le vampire nous transforme, transforme celui ou celle qui l'embrasse en sa propre substance. On voit d'ailleurs comment les films de vampires comme Blue Bloods jouent aujourd'hui de ce mythe. Vous voyez que j'ai des enfants qui me mettent à bonne école pour mes références. La raison étreinte, c'est celle qui vise non pas la réalité qui s'offre au regard, mais la sous-réalité dont l'art nous révèle qu'elle se tient dans l'objet qui en est la manifestation pour l'œil et à laquelle il nous fait accéder dans l'étreinte qui nous réunit dans une seule et même attitude rythmique, pour parler encore le langage de Senghor. Lorsque la nuit tombe sur le musée et que les vivants visiteurs contemplatifs sont partis, la vraie vie commence, la vie des mutants, que sont les objets d'art. Ce qui fait le mutant, ce qui fait pour moi la valeur de ce mot, c'est qu'il est construit comme un participe présent. Ainsi, le mutant n'est pas le résultat d'une métamorphose, c'est la métamorphose toujours en train de s'effectuer, ce qui est la définition même de la vie. Le musée à viser sera donc le musée qui dira aux objets que leur habitat et lieu de vie, d'expression de cette cosmologie de l'émergence continue dans laquelle ils s'inscrivent et s'expriment. Cette cosmologie nous sera donnée par le système axiomatique suivant. Premièrement, être, exister, c'est être une force. Cela se dit en Bambara, je crois, Nyama, et cela se dit dans les langues bantoues, Ntu. Être, c'est être une force, ou alors, si on veut jargonner et dire ça en latin, ens sive robur, l'être, autrement dit, la force. Ça, c'était le premier principe axiomatique. Deuxième principe axiomatique, toute force est une force individuelle. Et ce qui fait son individualité, c'est son rythme. Autrement dit, si je me donne, comme vous avez senti que je commence à me donner, une ontologie dynamique, pour reprendre une expression de Bénédicte tout à l'heure, une ontologie où être, c'est être une force, on pourrait se dire que le choix est peut-être d'avoir un monisme ontologique, une sorte de force des forces, dont chaque élément apparemment individuel serait simplement une manifestation ou une modalité. Ce n'est pas le cas. Ici, on est véritablement dans un pluralisme ontologique avec des forces individuelles. Et ce qui les individualise, ce qui fait que la force qui est Amadi Boukoum n'est pas la force qui est Malick Ndiaye, c'est que Amadi Boukoum a un rythme boukoumien qui n'est pas le rythme ndiayien de Malick Ndiaye. Troisième élément axiomatique, l'ensemble de ce qui existe constitue un réseau de forces qui vont depuis la force des forces jusqu'au minéral, en passant par les grands morts, les ancêtres, les humains vivants, les animaux, les plantes. Cet univers où rien n'est inerte est donc une chaîne d'êtres et de forces qui fait Dieu parent du caillou. C'est en effet ainsi que Senghor, encore lui, présente en résumé, en une formule que je dirais lapidaire, si vous me pardonnez le jeu de mots, cette ontologie dynamique de Dieu jusqu'au caillou, écrit-il. Quatrième axiome, le conatus de toute force, la finalité, la visée de toute force, est d'être plus force, ou bien plus être, dans le langage de Pierre Teilhard de Chardin. Cinquième élément de cette axiomatique, et bien sera défini comme bien ce qui augmente la force, la rend plus force ou la renforce, et sera défini comme mal ce qui diminue la force, ce qui la rend malade, ce qui finit par la pétrifier ou par la déforcer, pour prendre un néologisme senghorien, encore une fois. Je n'arrête pas, je respire Senghor pratiquement naturellement. Sixième et dernier axiome, les forces agissent les unes sur les autres. C'est donc ce réseau de forces est également un réseau d'interaction. Ce système de postulats se dégage entre autres et plus particulièrement des études anthropologiques, philosophico-anthropologiques qui ont été menées sur la cosmologie bantou, je parle ici du tout, et sur les cosmologies Dogon et Bambara, si on veut évoquer le Nyama. On sait que ces études ont été dénoncées par la suite dans leur prétention à dire la philosophie bantou ou la philosophie Dogon ou Bambara, en mettant en question la notion d'une philosophie qui serait à la fois collective et spécifiquement africaine. Je ne crois pas qu'il y ait en effet grand sens à parler d'une philosophie collective, et je ne vois pas non plus que cette ontologie dynamique, cette ontologie du conatus, puisse être spécifique à une population donnée et soit de manière unique et absolue le propre de certaines communautés africaines ou d'une majorité d'entre elles. Mais je ne fais qu'évoquer en passant la querelle de l'ethnophilosophie qui ne fait pas l'objet de mon propos ici. En revanche, de ce système de postulats, je constaterai qu'il a été, d'une manière qui est ma foi tout à fait heureuse, mis au service de l'intelligence et de l'éclairage du langage des arts d'Afrique, proposé par le Ghanaien William Emmanuel Abraham dans « The Mind of Africa », publié en 1962, ou par le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, pour penser d'une part l'inscription des œuvres produites dans les cosmogonies où elles sont nées et qu'elles manifestent, et d'autre part ce que ces œuvres disent en elles-mêmes dans le langage des formes dont elles sont constituées. En Afrique, dit Senghor, il n'y a pas d'art pour l'art. En ce sens, l'art y est toujours fonctionnel et collectif depuis le début du processus de la création. Notons qu'il a généralement raison, à condition de parler le langage d'une approche comparative et non pas le sien qui est bien trop souvent inutilement essentialiste. La restriction que j'introduis en disant « généralement » vise les arts figuratifs et même, dirais-je. Dire que la création des objets et des performances que nous appelons « art » est portée par la collectivité, même si elle est l'œuvre d'un ou d'une personnalité, et aujourd'hui, d'ailleurs, on est sorti de ce climat où on considère que les créations en Afrique sont forcément, naturellement, essentiellement anonymes pour chercher parfois des auteurs, des écoles, etc. etc. Donc, dire cela, c'est indiquer l'inscription de l'œuvre dans ce que j'ai appelé une cosmologie de l'émergence, pour exprimer l'idée d'une cosmologie qui vise toujours une plus grande abondance de vie. Et c'est précisément d'une telle visée que participe l'œuvre. Dire donc que l'objet mutant tire son sens de cette cosmologie, c'est comprendre qu'il récapitule en quelque sorte en lui le flux créateur. C'est ainsi que l'acte créateur dont naissent les objets s'identifie à une remontée des forces inférieures qui fleurissent alors en une lumière de l'esprit. Pour exprimer cela, Senghor, on le sait, a des vers d'une saisissante beauté sur la figure générale d'une danseuse chez qui les mouvements frénétiques du corps n'enlèvent rien à la sérénité et à l'imperturbable sérénité, l'imperturbable calme du visage. En quelque sorte, le visage lui-même demeure imperturbable, alors qu'en dessous, les forces inférieures que sont les membres s'agitent frénétiquement. Quant au visage, lui, il reste comme un masque, tel qu'en lui-même, l'éternité l'a sculpté. Mouvement donc de spiritualisation et poétique de stylisation se conjuguent harmonieusement pour converger dans la traduction en langage plastique de la force de vivre ou de l'élan vital. Il est dit par certains que cette cosmogonie de l'émergence et la signification qu'elle donne aux œuvres d'art a aujourd'hui disparu. C'est un discours que l'on entend de la part de ceux qui opposent au principe même de la restitution des objets d'art africains et des conclusions de Bénédicte Savoie et de Félouine Sarr sur ce sujet, que ce retour n'a pas de sens, la rupture étant désormais définitivement consommée par la migration même des objets vers les mondes euraméricains, mais aussi par l'effacement des terroirs causé par l'iconoclasme caractéristique des religions monothéistes. À ce genre d'argument qui a été opposé à Bénédicte et à Félouine, la seule vraie et courte réponse serait de dire « Écoutez, laissez-nous en décider nous-mêmes ». Mais réfléchir plus avant peut aussi avoir son intérêt qu'au-delà de celle du retour, la question est celle de savoir s'il y a en effet rupture, s'il y a césure, et si oui, ce qu'elle signifie. Dans la réflexion que nous avons engagée lorsque nous préparions l'ouverture du Musée des civilisations noires, nous avions évoqué, plutôt que la rupture qu'elles auraient représentée, les appropriations africaines des religions du livre que sont l'islam et le christianisme. Je prendrai ici le cas de l'islam et je m'en tiendrai à la région ouest-africaine soudano-sahélienne, celle que dans les chroniques on appelait le Bilad Soudan, signifiant le pays des Noirs ou simplement le Soudan. Dans son livre de 1615, connu sous le titre de « Réponse à propos de l'esclavage », où il s'insurge contre la traite qui reposait sur l'ignoble équation « noir égale esclave », Ahmad Baba al-Timbukti rappelle que l'islam ne fut pas, dans l'Ouest africain, le résultat de quelque imposition ou de quelque conquête extérieure que ce soit, contrairement à une idée répétée, donc reçue. Dire ainsi que l'islam en Afrique de l'Ouest n'était ni le résultat d'une conquête, ni celui d'une contrainte imposée, impliquait aussi que l'adoption de la religion n'était pas la perte ou le remplacement violent d'une identité en conséquence de la destruction totale de la cosmologie dans laquelle elle était définie. Elle était, au contraire, création ou recréation continue de celle-ci et sa traduction dans le langage de la cosmologie coranique. Le design islamique est devenu un élément important des arts de l'Afrique de l'Ouest. La poésie religieuse a bien sûr été développée et l'écriture arabe est également devenue un motif artistique, incorporant différents matériaux, les étuis en cuir, les tuniques, etc. L'apport de la civilisation islamique est ainsi éminemment visible, surtout dans l'urbanisme et dans l'architecture. Parlant d'architecture islamique, le discours, encore une fois, reçu d'une conquête par le Nord est manifeste dans l'idée, elle aussi reçue, de longue date, selon laquelle le Soudan aurait accueilli, à partir du Maghreb, le modèle de ces mosquées. Le rôle de passeur aurait même été joué par un homme, Abu Ishaq al-Sahili. Ce poète, qui est né autour de 1290 à Grenade et qui est mort en 1346 à Tombouctou, aurait accompagné le Mansa Moussa à son retour du célèbre pèlerinage à la Mecque de 1324 et aurait été commandité par lui en tant qu'architecte officiel de l'Empire. Il se racontait donc qu'il avait créé le style dont le modèle le plus connu est la grande mosquée de Tombouctou, connue sous le nom de Djingaraber. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire qu'Abu Ishaq al-Sahili a peut-être joué un rôle, a certainement joué un rôle, mais que l'histoire urbaine de la région et ce que l'on a appelé le style architectural soudanais ont été la création des cultures et des savoir-faire de l'Afrique de l'Ouest. Les mosquées ouest-africaines expriment dans leur architecture même une philosophie du temps et une cosmologie en continuité avec la cosmologie de la force de vivre. Ainsi, construire la maison de Dieu, c'est la faire s'élever comme si elle sortait du limon vivant que sont les rives du fleuve Niger, comme si elle naissait continuellement de la terre sahélienne, recevant comme une miséricorde céleste la pluie ou alors le fleuve, les eaux du fleuve. En un mot, construire une mosquée, c'est donner à l'élan vital la forme qui convient à la maison de Dieu. Un autre aspect de cette philosophie de la poussée vitale est que l'œuvre qu'elle crée ne prétend pas être éternelle. Elle n'est pas une expression de la monumentalité et de la permanence, mais de la mutation continue qui est la vie même. Loin d'essayer de défier le temps et de lui échapper, elle lui appartient, elle s'y loge, elle y vit, rappelant que même si Dieu est l'Éternel, il est également vrai, comme le dit une tradition prophétique, qu'il est le temps. Ainsi, la nécessité de réparer et de soigner de manière continue et périodique est inscrite dans l'édifice lui-même. Les poutres apparentes qui sortent de ses murs, ou à tout le moins des murs du minaret, en banco, ont une fonction décorative, mais sont aussi une sorte d'échafaudage permanent qui facilite les réparations périodiques et le replâtrage. La réparation, comme dirait mon ami Kader Atia, la revivification périodique et la renaissance continue sont donc inscrites dans l'œuvre et dans l'édifice même. Le style soudanais en architecture islamique aussi est l'expression d'une ontologie dynamique, d'une cosmologie de l'émergence continue. S'il est certainement vrai que des explosions de zèle religieux et fanatique et d'iconoclasme ont parfois conduit à la destruction de masques et d'autres témoignages de rituels considérés comme païens, il est également vrai que la désintégration de la cosmologie ne s'est pas produite. La cosmologie de la force vitale n'a pas seulement survécu à l'islamisation, elle l'a intégrée. Que l'on prenne une figure abstraite en terre cuite, une terracotta, ou bien que l'on considère une peinture à l'huile, comme celle intitulée « Paysage de Tombouctou », représentant des escaliers menant à un minaret, ou qu'on prenne encore une figure en terre cuite à genoux. Je suis désolé de ne pouvoir vous montrer ces œuvres-là, mais je suis très vieille école, je n'ai pas d'instruments techniques, je parle simplement. Ce seront là trois œuvres liées à Djenné et qui disent ensemble les mutations profondes de la civilisation ouest-africaine. Elles partagent ces œuvres néanmoins d'être toutes trois, à leur manière différente, une prière pour la vie. Un mot pour m'acheminer vers ma conclusion, sur la rupture radicale qu'aurait été la migration, le plus souvent forcée, vers les musées des expéditions scientifiques coloniales, les musées ethnographiques et pour finir, les musées des arts premiers. Ce n'est encore là que mutation, dont la possibilité était en effet portée par l'œuvre dans sa plasticité infinie. Ces objets transplantés ne seront pas devenus muets pour avoir été déracinés. Leur qualité de mutant s'est exprimée dans le langage de la révolution nègre, comme on l'a appelé. Qui dira que ce fut là un détournement, que l'on a fait parler ces œuvres à contresens de l'intention qui leur donna naissance? Parler à ce propos de primitivisme, c'est simplement les rendre inertes en faisant la création d'Européens eux-mêmes lassés de leur monde ancien et qui se seraient cherchés dans un primitif qui était de part en part leur propre invention. Évidemment, quand on parle de primitivisme, on pense par exemple à Rimbaud déclarant « je suis nègre » et partant en Abyssinie, ou alors Blaise Cendrars disant « à la fin tu es là de ce monde ancien », etc., etc. Mais dans ces cas-là, c'est toujours considéré que les objets sont là pour nourrir au fond une agentivité, comme on dit si laidement aujourd'hui, qui serait le fait simplement des Européens. Autrement dit, les Européens auraient inventé ou réinventé ou recréé ces objets dans leur volonté de primitivisme, de chercher le primitif, etc. Ça veut dire que ces objets sont simplement utilisés par eux. Je voudrais dire au contraire qu'il me semble que ces objets ont agi, ont été agissants, comme dit Bénédicte, et l'ont été comme mutants et ont trouvé et tracé d'eux-mêmes leur chemin dans une modernité qu'ils ont contribué à créer. Si donc les choses que nous appelons objets d'art africains sont ces mutants qui ne tiennent pas en place et qui sont toujours excessifs, surtout la nuit, comment traduire cela en une configuration muséale ? Le principe sera de se mettre à leur diapason et de servir leur vie de mutant. À ontologie dynamique, donc, musée dynamique. Et on comprend pourquoi le grand musée du Festival mondial des arts nègres s'est appelé ainsi. Le principe sera alors que le musée africain soit la reproduction de la cosmologie émergente où les objets auront vie, nocturne, mais diurne également. Que toute chose dans le musée signifie que l'on a affaire à des mutants qui remettent en question la séparation même du dedans et du dehors, du vivant et de l'inerte. Les écomusées, je crois, reposent sur ce principe. Mais même les grands musées de la capitale, de la ville moderne et de la déterritorialisation qu'elle produit continuellement peuvent s'efforcer de mettre en œuvre le même principe. Sur ce point, j'évoquerai pour finir deux exemples. Premièrement, l'exemple récent que j'ai découvert à Stuttgart, où j'ai été grâce à Philbin, au Linden Museum, qui propose une exposition « Where is Africa ?», dont il est dit qu'elle se focalise sur les relations et les mouvements, là je suis en train de citer, dans lesquels les objets se sont trouvés engagés par le passé, mais présente aussi les processus qu'ils animent aujourd'hui et interroge les futurs dont ils portent la possibilité. Fin de citation. Que l'exposition elle-même puisse ne pas être à la hauteur du projet ainsi exprimé, cela peut arriver. Mais que ce projet ait été exprimé de cette manière-là est, me semble-t-il, indication de la voie à suivre. Le deuxième exemple, je le trouve dans les réflexions exprimées par Amadi Boukoum, parlant du Musée des civilisations noires à Dakar, dont il a aujourd'hui la charge en tant que directeur général. Interrogé par Martial Zé Bellinga dans un entretien publié dans le numéro spécial de Présence africaine consacré à la décolonisation des humanités et donc des musées, Amadi Boukoum commence par affirmer la nécessité de changer de paradigme pour ouvrir, je le cite, une nouvelle ère dans la vision muséale. Dessinant ensuite les linéaments de ce nouveau paradigme, Boukoum indique que l'organisation spatiale doit être ouverture avec des galeries ouvertes qui seront, je le cite, des espaces de rencontre et de performance impliquant acteurs et publics. Il insiste aussi sur l'ouverture du musée sur son environnement immédiat, qui doit être un lieu où se tisse, je le cite à nouveau, des relations d'interdépendance avec le tissu social. Ainsi, l'imposant musée de la capitale, on a fait chinois, ne rompra-t-il pas avec la mobilité, la mutabilité de l'écomusée du village, mais lui fera écho selon ses modalités propres. C'est ainsi, dit Amadi Bokoum, que la case à Improvium du royaume de Bandial en Casamance, ou le Pench, l'agora des cultures Wolof, se retrouve dans l'architecture intérieure du musée, ouvrant de l'intérieur en quelque sorte l'imposant édifice qui rappelle le grand Zimbabwe. Je veux dire tout mon accord, on l'aura compris, avec la vision d'Amadi Bokoum, qui s'est exprimée lorsque nous avons travaillé ensemble, avec d'autres amis et collègues, au récit général qui devait donner au musée l'épine dorsale à partir de laquelle proliféreraient des voies et des voies multiples. Ce récit devait reposer sur la notion que l'Afrique n'était pas seulement berceau de l'humanité, selon l'expression consacrée, mais tout autant et tout aussi bien création continue d'humanité. En effet, et pour jargonner, ex Africa semper aliquid novi. Je vous remercie infiniment.